Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Hélène Destombes.
Bonsoir. Nucléaire, États-Unis, Arabie Saoudite, les lignes directrices de la politique étrangère iranienne ont été dévoilées ce matin par le nouveau président 3 jours après son élection. Ebrahim Raisi a entre autres appelé à des négociations fructueuses sur le dossier du nucléaire et martelé son refus d'une rencontre avec le président américain Joe Biden. Il s'agissait de la toute première conférence de presse du président conservateur. Les précisions de Delphine Allaire.
C'était une première prise de parole très attendue. Ebrahim Raisi, qui doit prendre officiellement ses fonctions au mois d'août, a détaillé sa vision des relations internationales, à commencer par le gros dossier du nucléaire iranien sur lequel des discussions sont en cours à Vienne pour sauver l'accord international. L'Iran ne se permettra pas des négociations pour le plaisir de négocier. Toute rencontre doit produire des résultats pour la nation iranienne, a affirmé Ebrahim Raisi, se démarquant nettement de son prédécesseur Hassan Rouhani sur l'ouverture à l'Occident. Le nouveau président iranien a ainsi catégoriquement refusé de rencontrer Joe Biden, même dans le cas où les pourparlers de Vienne aboutissaient vers un allègement des sanctions américaines envers l'Iran. La tonalité est tout autre à l'égard de Riyad, grand rival de l'Iran chiite. Ebrahim Raisi a déclaré ne voir aucun obstacle à la réouverture des ambassades iraniennes dans le royaume sunnite et ouvert ainsi la porte à la reprise des relations diplomatiques avec l'Arabie saoudite. Des inflexions à toutefois relativiser car le président a des prérogatives limitées en Iran, où l'essentiel du pouvoir est aux mains du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, ultime décideur donc de tous les dossiers sensibles comme celui du nucléaire.
Delphine Allaire. La plus haute cour de Turquie va débuter l'examen d'une demande d'interdiction du parti pro-kurde, le parti démocratique des peuples, troisième force politique au Parlement. L'annonce a été faite ce lundi. Elle fait suite à une requête d'un procureur ayant saisi la cour constitutionnelle. Le HDP est dans le viseur du gouvernement, accusé d'être la vitrine politique du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, groupe qualifié de terroriste par Ankara. Les nombreuses crises qui ébranlent le Moyen-Orient sont au cœur des travaux de la 94e Assemblée plénière de la ROACO, une rencontre qui a débuté ce lundi au Vatican par une prière à la Vierge Marie pour les pays qui continuent à subir les conséquences de la violence, de la pandémie de Covid-19 et de l'instabilité sociale et politique. Les discussions, prévues jusqu'à jeudi prochain, porteront sur la situation en Terre Sainte, en Arménie, en Géorgie et en Éthiopie. L'Éthiopie, où les électeurs sont appelés aujourd'hui à se rendre aux urnes, un scrutin législatif, initialement prévu en août 2020, aux allures de test électoral pour le Premier ministre Abiy Ahmed, dont le pays est actuellement ravagé par la famine et un conflit meurtrier dans la région du Tigré. L'Église a dit attendre un dirigeant vertueux qui s'efforce de promouvoir l'égalité, la justice et la paix dans le pays, considéré comme l'un des berceaux de l'humanité et l'une des plus anciennes nations chrétiennes au monde. Les Arméniens votaient eux hier lors de législatives anticipées et c'est le Premier ministre Nikol Pachinian qui a remporté le scrutin. Son parti, Contrat Civil, a obtenu près de 54% des voix, loin devant le bloc Arménie mené par l'ancien président Robert Kocharian. Ce dernier a dénoncé des fraudes et s'apprête à contester les résultats de l'élection en justice. Le Bélarus, de nouveau sanctionné par l'Union européenne. 2 ministres, ceux de la Défense et des Transports, sont sous le coup de ces nouvelles mesures européennes. Elles visent également des secteurs clés de l'économie du régime d'Alexandre Loukachenko et font suite au déroutement d'un avion de Ryanair permettant l'arrestation d'un opposant. Les États-Unis ont eux aussi imposé aujourd'hui des sanctions financières ciblées au Bélarus en coordination avec les 27, le Royaume-Uni et le Canada. En Inde, le gouvernement a lancé aujourd'hui la vaccination gratuite pour toute sa population adulte. Seuls 16% des Indiens ont pour l'instant reçu au moins une dose. Les autorités veulent accélérer la vaccination pour faciliter le redémarrage de l'économie et se prémunir contre une possible 3e vague. Mais atteindre l'immunité collective prendra du temps. À New Delhi, Emmanuel Derville.
Alors que la Chine a franchi la barre du milliard d'injections la semaine dernière, l'Inde est encore loin du compte avec 280 millions de doses administrées. Le pays réalise 3 millions d'injections par jour contre 20 millions en Chine. Ce retard ne porte pas à conséquence pour l'instant. Avec 1400 morts recensés hier, le pays a enregistré son plus faible bilan en 2 mois et la courbe continue de descendre. Mais la lenteur de la vaccination est problématique car le pays craint une 3e vague d'ici la fin de l'année, avec le risque de nouveaux variants si le virus se remet à circuler activement. Plusieurs obstacles freinent la distribution. Serum Institute of India, le premier fabricant de vaccins du pays, a déploré un manque de matières premières. Alors qu'il comptait distribuer le vaccin Novavax à partir de septembre, cette pénurie entraînera des retards de production. Les régions rurales peinent aussi à vacciner à cause du manque d'hôpitaux privés qui ont lancé leur propre campagne payante dans les grandes villes. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
Situation inquiétante également en Indonésie qui fait face à une hausse importante des contaminations. 2 millions de cas de coronavirus ont été enregistrés dans le pays où le nombre quotidien de personnes affectées par la maladie a doublé ces dernières semaines alors que seuls 7% de la population ont reçu au moins une dose du vaccin. Retour dans notre dossier ce lundi sur la figure de Robert Schuman, désormais vénérable. Dans un décret de la cause des saints signé samedi, le pape François a reconnu l'héroïcité des vertus de celui qui fut l'un des pères de l'Europe. Homme politique central de la 4e République, tour à tour ministre des Finances, des Affaires étrangères et garde des Sceaux, il va s'engager intensément au service d'un système commun de croissance économique et sociale à l'échelle européenne. Artisan de la réconciliation avec l'Allemagne, Robert Schuman vivait intensément et discrètement une foi catholique profonde. Nous en parlons avec le père Bernard Ardura, président du Comité pontifical des sciences historiques et postulateur de la cause de béatification de Robert Schuman.
L'action politique doit être toujours en faveur de l'homme, en faveur de la personne. C'est ce qui a déterminé toute l'action de Robert Schuman. Et en favorisant la réconciliation, il a permis de créer, dans ce qui était alors le monde libre par rapport à l'Empire soviétique, il a permis de créer donc un monde, une société dans laquelle l'homme a pu s'épanouir. C'était les conditions essentielles pour que la société puisse se relever du deuxième conflit mondial et qui a permis, je crois, eh bien, de nous orienter vers la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mais qui, parfois, et souvent même, a oublié le grand idéal de Robert Schuman, qui était un idéal de partage, un idéal de solidarité. Voilà un autre aspect très important qui doit être présent dans la vie des politiques, et en particulier dans la vie de ceux qui ont des responsabilités au niveau européen.
Sa figure est aussi, selon vous, la continuation d'une longue tradition chrétienne en Europe. On parle souvent, le débat sur les racines chrétiennes de l'Europe revient régulièrement. Est-ce que, justement, la figure de Robert Schuman symbolise aussi ces racines-là, selon vous ?
Ah, certainement. Les racines chrétiennes de l'Europe, on ne peut pas les voir dans une vitrine, comme si elles étaient dans un musée. Les racines chrétiennes de l'Europe, nous les voyons à l'action. C'est elles qui ont inspiré un homme comme Robert Schuman et qui inspirent tous ceux qui font de leur engagement politique un service. C'est dans la façon dont Robert Schuman a rempli ses diverses missions que nous voyons comment la foi chrétienne, cette foi chrétienne, cette charité chrétienne, peuvent transformer la vie d'un homme et faire que son service du prochain soit vraiment l'épanouissement et l'accomplissement de la vocation d'un homme qui a voulu vivre sa vie de baptisé jusqu'au bout.
Un mot peut-être, Père Ardura, sur la foi de Robert Schuman, une foi, je crois, humble. Comment caractériser sa foi en Dieu ?
Sa foi en Dieu, c'est une foi totale. Je veux dire par là que c'est toute sa vie, tout son être qui se perd en Dieu, en quelque sorte. Il est dans le cœur de Dieu, il vit dans le cœur de Dieu. Et c'est dans cet échange d'amour que Robert Schuman puise la raison même de son action et de sa vie. C'est un homme qui vit une foi discrète, n'est pas particulièrement expansif. Il ne brandit pas son drapeau, mais toute son action est inspirée par sa foi.
Interrogé par Olivier Bonnel, le père Bernard Ardura, postulateur de la cause de béatification de Robert Schuman, était l'invité du dossier de Radio Vatican. C'est la fin de ce journal. Merci de votre écoute. Très belle soirée. Au revoir.